allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Hello. Il est 9h40, vous êtes sur France Inter et c'est reparti pour une semaine d'Instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
Virginie Linhart est fille de maoïste, fille d'un acteur et d'une figure majeure de 1968. Virginie Linhart a écrit sur son père, muré dans la dépression et le silence. Et la voici qui consacre un film à une femme qui ne parle pas, mais qui sourit. Le sourire de Brigitte Macron intrigue beaucoup Virginie Linhart. Un sourire, un parcours transgressif, désormais connu de tous, suffit-il à faire un film? Et puis, au fond, après 1h30 de documentaire, on se demande, est-ce un film sur la transgression ou est-ce un film sur la bourgeoisie?
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Virginie Linhart.
Bonjour.
Soyez la bienvenue. Brigitte Macron, merci. Un roman français, c'est le titre de ce film qui sera diffusé en prime time sur France 3 mercredi soir. 1969, Gabriel Russier, professeur de français, se suicide, condamné à la prison pour avoir aimé son élève de 16 ans. Virginie Linhart, vous avez retrouvé cette déclaration très très émouvante et totalement oubliée de Georges Pompidou.
Comprenne qui voudra, moi mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus. Celles qui ressemblent aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'éluard. Merci, mesdames et messieurs.
Déclaration très émouvante et Georges Pompidou très ému. Pourquoi Brigitte Macron, Virginie Linhart? On ne fait pas un film par hasard. Il y a dans votre sujet quelque chose qui fait écho à vous ou à votre travail.
Je crois, ce qui m'a intéressée chez Brigitte Macron, c'est évidemment ce côté transgressif. J'étais très intriguée. J'adore les personnages qui sortent de leur endroit. J'adore les gens qui bousculent tout. Et bon, vous avez rappelé mon pédigré de
paternel.
Naissance, comme on dit. Et heureusement pour moi, je me suis pas arrêtée à l'histoire du maoïsme parce que sinon je ferais plus grand chose.
Non, mais
aujourd'hui
vous avez
en
aussi
France.
Beaucoup travaillé sur la mais Shoah et sur les victimes de la Shoah. Vous êtes docteur en histoire politique. Vous avez aussi multiplié les portraits de femmes, Simone de Beauvoir, Jeanne Moreau. Très récemment, vous travaillez sur Françoise Dolto. Pourquoi Brigitte Macron?
Brigitte Macron, parce que c'est un personnage qui m'intrigue absolument. Parce que je trouve que voilà, c'est vrai. Brigitte Macron, pour moi, c'était un peu Gabriel Russier à l'Élysée, pour le dire vite. Et j'étais fascinée, comme je pense beaucoup de femmes, parce que j'ai eu cet écho-là. Et c'est intéressant de voir aujourd'hui à quel point elle est populaire, par exemple, parmi l'électorat de Mélenchon. Vous voyez, c'est incroyable. Et je pense qu'il y a...
Elle, mariée à 21 ans à un banquier, voilà, femme au foyer, trois enfants devenus médecin, avocat, ingénieur, qui passe son CAPES de lettres
à 36 ans. Avec ses trois enfants, qui décide, qui est au fin fond de l'Alsace, à Trüchtersheim, et j'y suis allée, et je peux vous dire que c'est pas la fête au palais tous les jours, et qui décide tout d'un coup que c'est trop, c'est trop enfermant, etc. Il y a une petite image que j'ai filmée, c'est le bar de Trüchtersheim, ça s'appelle À la Libération. Et voilà, tout d'un coup, elle se dit, bon bah il faut que je fasse autre chose, il faut que je fasse quelque chose, elle passe son CAPES, elle devient cette prof qui est, à mon avis, formidable, visiblement. C'est son truc, à Brigitte Macron. Elle arrive à pousser, à coacher, à motiver, elle le fait avec ses élèves, elle le fait avec ses enfants, elle le fera plus tard avec le président de la République. Et évidemment, j'étais intriguée par cette force-là. Qu'est-ce qui fait qu'à 40 ans, on envoie tout bouler pour un très très jeune homme?
Voilà, c'est pour ça que j'avais envie. De moins qu'elle. La famille Trogneux, donc c'est sa famille.
Absolument.
C'est son nom de jeune fille. Cinq générations de chocolatier haut de gamme à Amiens. Son père était directeur du club de tennis, ça veut tout dire, dans une ville de province. Son frère également, par la suite. 1989, ce frère, justement, joue un rôle déterminant dans l'accession à la mairie de Gilles de Robien.
En 1989, le défi était immense. La ville était communiste depuis près de 20 ans. La ville se mourait, sauf à un centre commerçant toujours aussi dynamique, grâce à des familles comme les Trogneux, les Lafarge. Mais malgré tout, la ville s'étiolait. C'était une sorte de belle endormie. Et Jean-Claude Trogneux s'est levé et a dit « Non, on va aider au renouvellement de la classe politique, comme on dit. » Et grâce à Jean-Claude Trogneux, grâce à la famille Trogneux, grâce aux amis des Trogneux, eh bien, nous avons très largement gagné.
Je recommence, Virginie Linhart. Vous, fille d'intellectuels maoïstes parisiens, juifs, normaliens, établis en usine. En fait, vous contez l'histoire d'une femme catholique de droite, et il y a un journaliste de Marianne qui en parle très bien, incontestablement de droite, qui a voté pour Nicolas Sarkozy une fois et même peut-être deux, fruit d'une bourgeoisie opulente et commerçante de province qui a toujours enseigné dans des établissements privés et qui est devenue l'élément clé d'un quinquennat qui ne prône pas exactement les valeurs de votre enfance. Finalement, c'est aussi ce portrait-là que vous faites.
Bien sûr que c'est ce portrait-là que je fais. Et c'est ce qui m'intéressait dans cette histoire. Heureusement que je ne travaille pas que sur ma propre histoire.
Non.
Et j'ai vraiment, vraiment, j'ai toujours aimé les gens qui faisaient un pas de côté. Et ça, pour le coup, elle le fait, ce pas de côté, avec un grand courage. Et je suis toujours très impressionnée par les gens qui ont du courage. Parce que les 10 années à Amiens, où Brigitte Macron est divorcée, séparée de son mari, où Emmanuel Macron fait ses études à Paris, fait ses premiers pas dans la carrière, et qu'elle, elle continue à être à la Providence, institution privée, jésuite, très classique, et où les gens changent de trottoir, détournent la tête pour ne pas lui parler dans une petite ville comme ça. Oui, ça m'impressionne. Oui, je trouve qu'il y a du courage là-dedans.
Et en même temps, j'ai l'impression, et en même temps, on s'était bien promis de le glisser dans cette interview, j'ai l'impression que tout votre film dit quelque chose de paradoxal, c'est-à-dire dit le contraire. Dit le contraire de ce parcours transgressif. Et c'est pour ça que c'est aussi, à mon avis, un film sur une femme bourgeoise qui reste bourgeoise jusqu'au bout des ongles. Le couple Macron lancé dans la présidentielle entame sa médiatisation, engage Mimi Marchand, c'est vous qui le dites, Matahari des paparazzi, interview fleuve et couve de Paris Match en maillot de bain pour Madame Macron.
Mon épouse, à laquelle je tiens beaucoup, a parlé à une journaliste de Paris Match. Mon épouse, elle ne connaît pas le système médiatique. Elle le regrette d'ailleurs profondément. Et elle a suffisamment de pressions qui sont liées justement à tous les journaux qui nous tombent dessus. C'est une bêtise. Mon couple, ma famille, c'est la chose à laquelle je tiens le plus. C'est pas une stratégie de l'exposer. C'est sans doute une maladresse. Je l'assume pleinement. Et ce sera donc pas une stratégie qu'on reproduira.
Bah bien sûr que si, c'est une stratégie, vous l'expliquez très 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 bien. Tout ça est parfaitement pensé. Montre tes jambes, lui dit Mimi Marchand. Les gens comprendront qu'il y a un lien charnel entre vous. On est en pleine rumeur de liaison entre Emmanuel Macron et Mathieu Gallet, notre ancien PDG. Aujourd'hui, on la juge, cette femme transgressive, libérée, émancipée, sur son corps, sur ses jambes, sur sa beauté, sur ses tenues, sur ses engagements caritatifs.
Alors, moi, je voudrais être claire sur une chose. Vous m'avez demandé pourquoi j'ai fait ce film.
Oui,
j'ai fait ce film parce que j'étais intriguée par ce personnage,
oui.
Parce que je trouvais qu'elle avait mis un grand coup de pied dans le jeu de quilles et qu'elle avait changé sa vie avec un courage incroyable et qu'elle assumait cet amour, son âge, etc. Après, l'enquête montre effectivement autre chose. Je crois que ce qui lui est arrivé dans sa vie à Brigitte Macron, c'est cette immense déflagration amoureuse, comme dit une historienne que j'interviewe, Joëlle Chevet. Et voilà. Et sinon, c'est vrai que c'est un personnage très classique, qui appartient à la droite provinciale, catholique, et qui en elle-même, n'a rien de révolutionnaire.
Absolument
c'est ça
rien.
C'est ça qui est amusant et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est de voir à quel point, finalement, l'amour peut mettre une bombe dans tout ça, changer tout. Mais après, chasser le naturel, il revient en galop.
Il revient en galop ou pas, parce que vous, justement, vous êtes aussi celle qui a travaillé sur les enfants de 68, sur 68, particulièrement des émancipations, des révolutions intimes, politiques, des intellectuels, vous en avez rencontré, raconté beaucoup. Là, il n'y en a pas du tout.
Alors,
il
y a une révolution
amoureuse.
Voilà, je dirais, il y a une révolution, enfin, il y a une émancipation à travers l'amour qui remet en cause les codes sociaux, etc., qu'on a l'habitude d'établir dans cette bourgeoisie. Mais finalement, le personnage reste le même. Et ça m'a intéressé de le voir aussi, de le montrer. Je trouvais ça intéressant de voir que, oui, l'amour permet de faire des choses incroyables, mais il n'a pas métamorphosé Brigitte Macron.
Non, alors...
Brigitte Macron est restée une femme, je pense, extrêmement ouverte, extrêmement intéressée, mais en même temps avec des valeurs très traditionnelles, qui s'efface derrière son mari. Et c'est aussi ce que j'ai voulu montrer, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui intéresse le plus Brigitte Macron, c'est que son mari, le président de la République, réussisse.
Alors, elle arrive à Paris, Brigitte Macron enseigne à Franklin, lycée très chic, très sélect, lycée privé bien entendu. Elle y va en métro tous les matins depuis le ministère de Bercy, elle est surnommée BAM, Brigitte Ozière Macron. Elle est adorée de ses élèves.
À la fois, elle nous parlait de ses filles, de sa petite fille, donc le fait qu'elle était grand-mère, et à côté de ça, elle pouvait très bien arriver avec Monsieur Macron, la fête de l'école, dans une cour qui grouillait d'élèves. Elle se baladait avec lui main dans la main. Donc voilà, c'était pas un tabou qu'on a découvert un jour. C'était parce qu'elle nous en a toujours parlé et que, enfin, nous, c'était normal. Ça nous a pas vraiment marqué.
Sauf que voilà, depuis, elle ne parle plus. Mais alors, elle ne parle plus du tout. Du coup, c'est sans doute votre film le plus hybride, le moins abouti. Enfin, vous tournez autour de quelque chose qui ne se fait pas, qui ne se dit pas. Ce n'est ni un film muet, ni un film parlant, hein, parce que contrairement à Jeanne Moreau, Brigitte Macron, elle est bien vivante, mais elle ne s'exprime pas. Alors, ses amis parlent, Damien d'Alsace, la femme de Jean-Pierre Jouyet, anciennement à l'Élysée, ses collègues, ses anciens élèves, sa troisième fille, Tiphaine, toujours la même. C'est tout.
La question, c'est pourquoi Tiphaine ou pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas, Brigitte Macron?
Pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas et pourquoi faire un film quand les deux autres enfants ne parlent pas, la famille Trogneux ne parle pas, la famille Macron ne parle pas?
Alors, pourquoi faire un film? Oui. Moi, je crois aujourd'hui, et c'est très clair pour moi, que le documentaire politique est pris, si vous voulez, dans un étau. C'est-à-dire, soit il le fait avec la communication politique de la personne, c'est-à-dire avec... pas seulement l'accord, mais avec les entrées dans le palais, etc. Et dans ce cas-là, il y a contrôle, il y a visionnage avant le film, etc. Soit il le fait en avertissant, et moi j'ai bénéficié de la grande bienveillance de Brigitte Macron, parce que vous imaginez bien que pour interviewer ses meilleurs amis, ou alors Tiphaine Osière, évidemment que ça passe par Brigitte Macron, même si moi je suis pas passée par elle, il y a un texto qui vérifie, etc. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de contrôle après. Mais voilà, on en est là du documentaire politique en France. Moi, je suis obligée de le constater, c'est-à-dire où on est intronisé par la com, et donc sous le contrôle de la com, ou alors on fait autour, comme vous dites. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait autour, et on ne peut pas faire autrement. Alors autour, le grand intérêt, c'est que moi, je n'ai pas montré mon film. Personne ne m'a dit, non, on enlève cette séquence, celle-là, ça ne va pas, il faut plutôt dire ce texte-là.
Mais et en matière de transgression et d'émancipation.
Je vais terminer, parce que c'est important de le dire, parce qu'on est des documentaristes. Les films comme La conquête de Clichy, de mon regretté Christophe Hotzenberger, qui a disparu il y a bientôt un an. Et ben on n'en fera plus des comme ça parce que ça n'existe plus. Des films comme mon ami Yves Jolland, Paris à tout prix, c'est pareil, on n'en fera plus parce que la communication politique a pris le dessus sur nous, c'est évident, et que il y a plus d'espace. Donc où on fait autour, où on fait avec.
Où on fait avec, comme Bertrand Delay a fait avec Macron, par Emmanuel Macron récemment pour France 3 également.
Voilà, moi j'ai choisi de faire autour parce que c'est plus ma manière de faire.
Après, c'est tout un programme quand même, cette femme qui ne parle pas. Elle ne parle pas, c'est quand même tout. C'est extrêmement signifiant quand on raconte aussi une histoire de transgression.
Ah ben moi, je suis d'accord, mais encore une fois, je pense qu'elle ne parle pas parce qu'elle ne veut pas parler, parce qu'elle pense que c'est mieux pour son mari, parce que son image est extrêmement populaire. Voilà, c'est quand même très troublant. C'est-à-dire que chaque déplacement de Brigitte Macron, c'est vraiment le déplacement de Rihanna ou de Beyoncé. C'est quelque chose d'incroyable. Ça n'a rien à voir avec le déplacement du président de la République. Donc, moi, je suis troublée. Moi, j'observe, je regarde. Il n'y a pas de parole, ça marche comme ça.
Il y a un autre fantôme dans ce film, un homme dont l'histoire la plus intime est désormais connue de toute la France, voire du monde entier après avoir déchaîné les commérages d'Amiens, c'est monsieur André-Louis Osière, qui fut son mari et le père de ses enfants, Tiphaine.
Je ne sais pas s'il était plus pris que n'importe quel homme qui travaille. Après, il y a aussi des questions de génération. C'est quelqu'un qui s'est toujours occupé de nous, mais il travaille en banque, donc effectivement, il pouvait rentrer plus tard. Ma maman, elle était avec nous à la maison, et donc ça, c'est vrai que c'était une chance. Et c'est quelqu'un qui, effectivement, gérait tout.
Vous l'avez cherché, ce monsieur, dont on ne connaît même pas le visage. Il n'y a aucune photo de lui. C'est vraiment le fantôme de ce parfait storytelling qui est raconté.
Ah, pour moi, c'est le secret le mieux gardé de la République actuellement, ça c'est certain. Non, je ne l'ai pas cherché. Je l'ai pas cherché, ça je l'ai dit tout de suite, que je le chercherai pas. C'est pas mon métier de faire ça. Et j'avais pas envie de faire ça, puisque il est totalement caché. Il a jamais voulu être montré. C'est franchement pas mon métier d'essayer de dénicher ça. Voilà, je suis pas le Daily Mirror, qui a inventé même l'avoir trouvé, etc. Et tout était faux. Donc je l'ai pas cherché. On m'a tout de suite dit est-ce que tu vas le chercher? Bien sûr, vous n'irez pas le chercher, selon.
Mais l'absence d'images, ne serait-ce que de photos, puisque on vous confie quand même beaucoup de photos de la famille Trogneux, etc. Du coup, rend évidemment cette absence absolument flagrante. C'est le fantôme du film.
Ah, bien sûr, c'est le fantôme du film. Après, moi, je comprends que ce monsieur n'ait pas forcément envie que sa photo soit sur tous les écrans.
Bien sûr, bien sûr. Je me suis posé une autre question. Vous parlez beaucoup, évidemment, de sa passion pour le théâtre, à Brigitte Macron, pour la littérature, cette femme cultivée. Voilà. D'ailleurs, c'est très intéressant, puisque le principal du Collège de la Providence à Amiens vous glisse d'ailleurs que c'est une grande tradition de l'éducation jésuite, d'enseigner le théâtre. Je trouve ça extrêmement intéressant. Elle arrive à Paris, elle laisse libre cours à ses passions et elle va forger tout un réseau d'amitié dans le monde culturel à elle et à son mari. Elle va beaucoup au théâtre. Et alors là, c'est aussi quelque chose dont on prend conscience. Ce théâtre-là, c'est un théâtre bien particulier. C'est Arditi, c'est Lucchini, c'est Line Renaud, c'est un théâtre bourgeois, très populaire, mais finalement pas vraiment à l'avant-garde de la création intellectuelle, pas du tout même.
Oui, c'est vrai. Et on peut même rajouter que c'est un théâtre largement privé.
Oui,
puisque c'est les théâtres privés. C'est vrai. Je crois que c'est Anne Fulda qui est journaliste au Figaro, qui dit elle a cette fascination un peu des gens de province qui arrivent à Paris et qui aiment bien ce qui brille, etc. Bon, mais c'est vrai que c'est étonnant, c'est-à-dire qu'il y a ce côté quand même aussi très très proche finalement, très proche de la France, et je pense que oui. C'est pas inintéressant, et je pense que c'est ce qu'elle apporte beaucoup à Emmanuel Macron, ce côté justement province, parce que elle connaît la France, elle connaît le terroir.
Et vous dites, de toute façon, il y a un moment où la gloire, c'est d'être instagrammée par Laetitia Hallyday à l'anniversaire de Line Renaud, entre Johnny et Vanessa Paradis, et au fond, ce dont rêvent tous les Français finalement, d'être à cet anniversaire.
Ce dont rêvent tous les Français et tous les politiques,
ouais.
Puisque c'est quand même une stratégie politique. C'est évidemment faire les unes de gala, c'est évidemment une reconnaissance pour le monde politique, pour tous les Français qui n'ont pas forcément envie de lire la presse dite sérieuse. Et c'est vrai que moi, cette semaine, j'ai 5 pages sur mon documentaire à gala. Je vous dis tout de suite, Sonia, c'est pas prêt de m'arriver à nouveau. Parce que c'est pas sur mes enfants de 68 que ce serait produit.
Que gala,
ni sur mes restes. Escapé de la Shoah. Donc voilà.
Non, en effet. Un dernier mot sur le sourire, parce que ce sourire, c'est le fil rouge du film. Le sourire de Brigitte Macron. Virginie Linhart.
Moi, j'aime bien. J'aime bien sourire. J'ai toujours aimé les gens qui souriaient. Je pense que j'aime bien sourire, et je pense que effectivement, ce sourire la protège. C'est à la fois une arme de séduction et un masque, une protection énorme. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, c'est pas fabriqué, parce que sur les photos des 10 ans à la Providence où elle est toute seule et elle attend finalement de pouvoir rejoindre son amour, etc. Et ben, elle sourit pareil. Et ça m'épate.
Merci beaucoup, Virginie Linhart.
C'est moi qui vous remercie.
Brigitte Macron, le roman français, c'est mercredi soir c'est sur France 3. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonia De Villers.
Italia.
Ouais, on va s'intéresser.
Ils ne sont pas à la Coupe du Monde, mais ils sont dans notre assiette.
Ouais, dans notre assiette, on s'intéresse au plaisir, au bienfait de la cuisine italienne. On va essayer de reconnaître une bonne pizza, comment bien réussir ses pâtes. Et puis, la grande question fondamentale, est-ce que les pâtes font grossir ou pas, hein? 0145 24 7000.